un peu là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Cette longue de la faim a creusé son visage, mais Ira Curtet offre un sourire généreux. Cette longue grève de la faim a creusé son visage, mais Ira Curtet offre un sourire généreux.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et,
quand elle est trop fatiguée.
La société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir.
J'ai cru que ça allait pas venir. Allez, bonsoir. On va consacrer notre émission de ce soir en plusieurs parties. La première, tout d'abord, c'est l'actualité proche et récente, puisque jeudi, deux dates coïncident de manière assez harmonieuse et particulièrement intéressante, puisque le jeudi 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants dans le monde, journée instituée par l'ONU. Et il paraît, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, parce que c'est pas le genre des initiateurs, mais qu'il y a une journée de grève. Évidemment, hein, comme d'habitude, on a de nouveau ces journées d'action qui ne se suivent pas et ne se ressemblent pas, enfin si, qui se ressemblent trop, qui sont des espèces de rappels à l'ordre dans la rue des syndicats pour se compter, pour nous compter, pour essayer de négocier leur importance à la table de la démocratie dite sociale, de la co-gestion, hein, comme on appelle ça. Et évidemment, cette journée n'ayant été préparée absolument pas, et ben on a peu de chances que ça soit un succès d'une part, même qu'il se passe quelque chose. Alors, nous, notre attention, elle va se porter plus vraisemblablement sur la journée internationale des migrants, puisque à l'initiative d'un collectif d'associations issues de l'immigration et d'associations de solidarité avec les migrants, avec les étrangers, hein. On peut être migrant et étranger, étranger sans être migrant, hein. c'est pas forcément un signe. Enfin, pour une fois, se pose la question de la place des étrangers et des migrants dans la société capitaliste et dans la société française, et de leur rôle et de leur importance dans le fonctionnement de cette société. C'est-à-dire, évidemment, puisqu'on est dans le capitalisme, alors il s'est passé des trucs aujourd'hui, mais on m'a pas prévenu, de leur place dans le système de production, c'est-à-dire dans le travail. Et donc, à l'initiative de la marche des solidarités, qui est un peu ce gros consortium d'associations qui organise depuis quelques années la solidarité et tente de visibiliser la question des migrants à l'échelon national, et proposer à la fois une journée de grève et une journée aussi de retrait des étrangers et des migrants à l'intérieur des différents secteurs de la société, c'est-à-dire donc le travail, je l'ai déjà dit, je me répète, pardon, mais aussi l'école, mais aussi évidemment tout ce qui va être le service, etc., etc. Et en plus, chose intéressante, pour une fois, c'est pas seulement la question des migrants et des étrangers qu'on pourrait tout de suite, qui nous viendrait tout de suite à l'esprit, c'est-à-dire les travailleurs sans papiers, Hein, bien sûr, parce que évidemment il y a des problématiques qui sont très délicates pour les travailleurs sans papier quand ils se mettent en grève. C'est-à-dire que si tu sors du bois, il faut pouvoir assurer et être entre guillemets protégé, en tous les cas avoir un minimum de soutien derrière pour pas se faire gauler à l'issue de la manif, ou même ne pas se faire voir comme sans papier, voire entre guillemets faire de la mauvaise publicité pour son entreprise qui te virerait incessamment tout de suite, quoi, pour en reprendre d'autres. Mais cette initiative, elle s'adresse aussi à tous les descendants de migrants et d'étrangers, comme votre modeste serviteur derrière ce micro, à s'identifier, à se manifester, à revendiquer leur part d'étrangeté, d'étranger-étranger, comme disait le poète, dans la constitution de cette société, et de ce pays de merde. Là, on a quelque chose qui est très prégnant et très intéressant. D'abord, évidemment, on espère que la journée de grève sera un succès et qu'il y aura des secteurs entiers de la société. Alors, on sait que sur Paris, il y a eu un peu de travail d'effectuer. Donc on va voir. Alors c'est non seulement évidemment des secteurs comme la restauration, le BTP, mais c'est aussi de plus en plus la sécurité. Hein. C'est l'aide à la personne et le service, que ce soit ménage, gardiennage de vieux, gardiennage d'enfants, le soin à domicile, etc., etc. Ou encore, pour le coup, depuis quelques années, une certaine nouveauté entre guillemets, mais la logistique, hein, avec la livraison, que ce soit la livraison de marchandises en gros, hein, les camions, mais aussi tout ce qui va être petits colis, messagerie, etc., etc. Messagerie, c'est tout ce qui va être dans la chaîne d'alimentation logistique, la fin, c'est-à-dire du stock au client. Donc là, il y a quand même moyen de foutre la merde. Il y a quand même moyen de voir. On espère qu'il y aura un peu de retentissement. Et puis, de toute façon, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter l'appel qui a été lancé par ces collectifs qui résument bien mieux que moi les enjeux et le pourquoi et le comment de cette journée. Camille, est-ce que tu essayes, s'il te plaît ?
La journée sans nous. Si on s'arrête, tout s'arrête. Est organisée à l'occasion de la Journée internationale des migrants et migrantes, le 18 décembre 2025. Cette journée d'action, initiée par les collectifs de personnes sans papiers et immigrés, appelle à une grève solidaire et politique contre le racisme d'État, la précarisation et le recul des droits des personnes migrantes en France. Nous pensons que cette lutte nous concerne toutes et tous, car les lois racistes et les politiques d'exclusion pave la voie au fascisme et fragilise les droits de chacun et chacune. Des collectifs, syndicats, associations et mouvements sociaux se mobilisent dans toute la France pour construire ensemble cette journée historique. Voici le texte de notre appel. Ce pays ne marche pas sans immigrés. Il n'existe pas sans l'immigration et en bénéficie à tout point de vue. Ce n'est pas l'immigration qui le détruit, ce sont les politiques menées, le racisme et l'injustice. Le 18 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des migrants et migrantes, nous appelons à en faire la démonstration. Nous appelons à organiser, dans tous nos quartiers, nos lieux de travail, une journée sans nous. Si on s'arrête, tout s'arrête. Avec ou sans papiers, immigrés, enfants d'immigrés, de première, deuxième, troisième génération, cousins, cousines, voisins, voisines, collègues, bloqueurs et bloqueuses du 10 septembre, manifestants, manifestantes et grévistes du 18 septembre, nous n'irons pas à l'école, au travail, dans les commerces. Nous manifesterons ensemble dans toutes les villes du pays pour l'abrogation immédiate de la loi Darmanin et des circulaires Retailleau, pour l'égalité des droits de toutes et tous, à l'école, au logement, à la santé, à la culture, au travail, pour la régularisation des sans-papiers, pour la fermeture des centres de rétention administrative, pour la justice sociale et la solidarité contre le racisme et le fascisme. Si tu le souhaites, tu peux nous rejoindre. tu peux cliquer sur le lien en dessous et remplir le formulaire. Nous t'enverrons le programme.
Alors, cet appel, il a été rédigé en de multiples langues. Il a été diffusé sur les dernières journées d'action qui ont eu lieu, donc le 10 décembre, etc. Et on verra bien ce qu'il donne. L'intérêt premier que je vois, c'est de politiser cette question de la migration et de la mettre dans le champ social. C'est-à-dire que, et ça, on va vous donner des petits argumentaires pour les fêtes de Noël, éclater le tonton raciste à la table, retirer des droits à certains, c'est retirer des droits à tous. Il ne faut jamais croire que la solution ou le problème, ça serait que certains auraient trop de droits par rapport à d'autres. Chaque gain de droits d'une partie de la population, d'une partie de la société, renforce l'ensemble des droits de tous ceux qui sont dans la société, en particulier, évidemment, lorsqu'on est sur le secteur du travail et de l'exploitation. Et donc, la chose est vraiment limpide, c'est-à-dire, d'une part, la question des migrants, elle cherche évidemment un bouc émissaire pour détourner l'attention des véritables questions, c'est-à-dire pourquoi certains ont de plus en plus de fric et pourquoi ça devient de plus en plus difficile de vivre alors que tu bosses. Et chaque entaille sur les droits, eh ben, elle appelle à des entailles sur les droits de tous. Un exemple, lors du dernier budget qu'on a vu, la question de la suppression des APL pour les étudiants étrangers non communautaires, elle est évidemment, une fois de plus, la question de la mise sous condition des APL pour l'ensemble des personnes, etc., etc. Donc, ne pas revendiquer avec les étrangers, c'est vraiment s'amputer de la possibilité d'accéder à des droits. Et puis de toute façon, il faut poser la question véritablement, pourquoi et comment des dizaines de milliers de personnes travaillent de manière illégale ou en tous les cas non déclarée? Pourquoi? À qui est la faute? Qui est responsable de ça? Quel est le rôle de cette masse de travailleurs sans droit, évidemment, précaires absolument, dans les travaux les plus pénibles, souvent, en tous les cas ceux qui sont désertés, soit par choix par les Français de souche, soit parce qu'ils en ont les moyens. Évidemment, quand on est une population plus diplômée, plus éduquée, non pas qu'on est plus intelligent, mais on a, surtout pas, mais on a la possibilité d'accéder à des emplois plus qualifiés, d'accéder à des emplois mieux rémunérés, d'accéder à des emplois qui sont moins difficiles que celui qui arrive et qui a justement besoin de prendre, pour le coup, ce qu'il y a. Et donc, j'espère qu'on pourra voir un petit peu de manière infinitésimale quand même combien cette population est indispensable au fonctionnement du pays, d'une part, de la société et du capitalisme en général.
L'idée est vraiment géniale. C'est vraiment bien d'avoir eu cette idée-là. D'un côté, il faut espérer que ça va se voir. C'est clair.
Alors, la difficulté, c'est que, d'une part, évidemment, malgré l'énorme conglomérat d'associations qui ont signé cet appel, dans le réel et dans le concret, il y a eu assez peu de travail de fait. Et puis, la seconde chose, c'est que, depuis quelques années, la question de la solidarité avec les étrangers, avec les migrants, elle est recouverte, elle est subsumée, c'est-à-dire qu'elle est écrasée en étant recouverte par des questions qui sont des questions d'ordre caritatif, d'ordre charitable, d'ordre humanitaire, qui certes sont valables, entendables, mais qui ont dépolitisé la question de la migration. Et donc, on va dire, le plus bel exemple de tout ça, c'est un des groupes les plus importants qui va se créer à la fin des années 60 et des années 70, qui s'appelle JCI, était un groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés. Et pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont fait le choix de mettre entre parenthèses, d'éteindre la question travailleur, parce que les thématiques aussi, elles ont changé. Il y a aussi le fait que il y a encore quelques décennies, la nature de la main-d'œuvre était, on va dire, la nature du prolétariat était différente. Il y avait des grands ensembles avec des grosses usines et des gros bastions ouvriers. Donc forcément, tout ça, ça donnait de la visibilité, ça donnait de la masse. La question, pour le coup, elle n'était pas une question de papier, là, puisque les papiers, peut-être que tu reviendras dessus vite fait sur les différentes étapes de l'illégalisation des gens. Là, c'était plutôt des problèmes de logement, des problèmes de maltraitance au travail, etc., etc. La question du travail, on va dire, elle était connexe parce que la France avait tellement besoin de travailleurs que c'était pas un problème de pas avoir des papiers. Hein. Par exemple, mon père est arrivé en France en 63 avec un visa. La première carte de résident qu'il a eue, je crois que c'est 72. Donc, et pendant 9 ans, il n'a pas eu du tout, enfin, il n'a pas eu de problème. Si, il a eu des problèmes liés à son faciès et à son prénom, mais il n'avait pas de problème pour trouver du boulot, quoi. Là, ouais. C'était même pour ouvrir un compte bancaire ou ce genre de conneries. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment eu aussi l'accumulation de lois, l'empilement de circulaires, de règlements, etc., qui ont créer l'illégalisation d'une certaine partie de la population sur le territoire. Et puis aussi, également, il faut bien le dire, on avait à l'intérieur des administrations et même de la classe politique, faut pas le nier, il y avait des gens qui étaient eux-mêmes issus de l'immigration, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils avaient connu la Seconde Guerre mondiale. Et cette question du traitement de la différence, du traitement des papiers, ou du traitement de l'altérité, notamment administrative, elle était quand même présente dans les esprits. Qu'on ait dans sa famille des gens qui étaient déportés, ou qui ont été migrants ou apatrides, etc., etc. Rappelons-le encore une fois, le JITSI, par exemple, il a été fondé par des étudiants de l'ENA. Qui sont sortis de leur promotion et qui ont fondé ce collectif qui, justement, se payait le luxe d'attaquer l'État, d'attaquer les institutions étatiques sur la question du droit pour la solidarité avec les migrants. Aujourd'hui, il y a une véritable... enfin, c'est pas une véritable... Il y a une partie de la classe dirigeante, de l'élite, qui assume totalement son racisme, que ce soit avec une vocation, comment dire, utilitaire ou pas, hein, mais qui l'assume totalement et qui est incapable de penser ou de réfléchir d'où elle vient, qui n'a aucune connaissance historique, qui a souvent très peu de culture même d'ailleurs, et on a complètement oublié qu'est-ce que ça voulait dire. Je te redonne un exemple. En 86, quand... Oui, c'est ça, 86, quand il y a la première tentative de création de la carte d'identité obligatoire, il y a des gens de droite qui vont protester et qui vont râler. Parce que pour eux, alors c'était l'idée de faire une carte d'identité infalsifiable et obligatoire, pour eux, c'est un droit d'avoir la possibilité de faire des faux papiers ou d'avoir la possibilité d'avoir de vrais faux papiers ou de faux papiers ou de pouvoir tricher, parce qu'ils ont justement cette mémoire que l'État, c'est pas forcément un copain quand il tombe du mauvais côté de la barrière. Voilà, je t'en donne la parole. Est-ce que tu pourrais, par exemple, si tu te poses la question, de nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est à peu près sur la question des personnes qui sont en situation régulière
Très simple, hein, déjà, je fais une permanence par téléphone. On peut me contacter. Mon nom, l'association Solidarité Migrants, est sur Internet. Le centre social dans lequel je fais les permanences, enfin les rendez-vous. Mamie, d'ailleurs, c'est eux qui l'ont fait. Mamie sur Internet, carrément. Et effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Quelles sont ces demandes? Alors, elles sont déjà, elles émanent de n'importe quel pays du monde. Des gens qui me viennent soit d'Afrique, soit même d'Asie, soit même d'Europe, d'Europe de l'Est. Et puis actuellement, le gros problème, c'est la carte de 10 ans qui a été obtenue grâce à l'immigration qui s'est battue en 81-82 sur ce thème. Et il a eu donc une certaine, une certaine stabilité avec cette carte qui durait 10 ans, qu'on soit algérien ou qu'on soit n'importe quelle identité, n'importe quelle nationalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau du renouvellement de ces cartes. Parce que les cartes arrivent enfin, là, et pour beaucoup. C'est un sacré bordel dans les préfectures de France, c'est moins qu'on puisse dire, à tel point d'ailleurs, et c'est passé assez inaperçu, à tel point que le Parlement français a décidé de renouveler automatiquement, a proposé de renouveler automatiquement ces cartes.
D'accord.
Sans qu'il y ait de problème pour apporter tel document, etc. Vous pensez bien que l'État s'est dressé contre, c'est pas passé pour l'instant. C'est d'ailleurs, cette proposition est passée au Parlement, mais elle va au Sénat, elle va revenir après. Je doute que ça passe, mais n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est passé très inaperçu. Parce que tout simplement.
Ça a été voté à l'Assemblée nationale.
Ça a été voté à l'Assemblée nationale.
C'est monté. Là, c'est au Sénat. Donc la navette parlementaire fait que ça va revenir à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc, on va voir.
Alors, attends.
On va voir.
C'est passé à l'Assemblée. Il y avait très peu de gens dans l'hémicycle.
Voilà, ouais.
Hein. Il y avait 98 voix pour, une cinquantaine de voix contre.
Oui, c'est ça. Il y avait des gens qui étaient à la pêche, ouais.
Voilà. Le pouvoir. Le pouvoir est contre, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'extrême centre. Et puis, il y a aussi le Front National, évidemment, le Rassemblement National, qui est contre. Bon, faut pas se faire d'illusions. Ça passera pas. Mais ça traduit tout de même un sacré problème pour l'administration française de faire en sorte que ces gens-là, on leur renouvelle leurs papiers. Parce que si on leur renouvelle pas leurs papiers, je vous dis pas le problème. Au niveau du travail, déjà, hein, parce que le patron, il a quelqu'un qui l'emploie, qui n'a pas de papier, qui n'a plus de papier.
Mm-hmm.
Il y a aussi le problème du logement, problème de ce que vous voyez, les allocations, la CAF, etc. Tout y passe. Donc, il y a des gens qui sont dans la merde depuis des mois et des mois, que je vois régulièrement. Alors, de temps en temps, ils arrivent à débloquer des trucs, l'administration. Mais c'est quand même pénible, quoi. C'est vraiment incroyable.
Ah, c'est un vrai boulot qui mange. C'est comme être pauvre, en fait.
Tout à fait.
Ça te mange un temps de fou.
Ça te mange un fou.
Et en plus, avec cette joyeuse société de la dématérialisation, auparavant, tu pouvais régler ton problème en quelques minutes à la CAF, par exemple. En présentant tes documents et en expliquant ta situation, tu tombais sur quelqu'un qui avait la capacité de saisir le problème. Aujourd'hui, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut prendre un rendez-vous. Et pour avoir un rendez-vous, vous prenez un ticket, vous faites la queue. Hein. voilà, évidemment. Hein, le service public, c'est pas seulement la poste.
Il y a le barrage informatique qui est terrible.
Ouais,
hein,
c'est ça. C'est ça.
Par exemple, pour le renouvellement de ses papiers, il y a un site qui a été, dont la création a été une catastrophe, hein. Ça a mis des mois et des mois, ça s'appelle l'ANEF. Alors l'ANEF, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le N c'est numérique évidemment, pour les travailleurs immigrés, pour les immigrés, il faut qu'ils se connectent sur ce site, l'ANEF, faut qu'ils aient compris où était leur numéro d'étrangers, parce que chaque étranger a son numéro, c'est marqué sur sa carte, encore faut-il savoir, hein, parce que dans une, je sais pas si vous avez déjà vu une carte, il y a des numéros partout, hein, il y en a 3 ou 4. Non, il y en a un qui est spécial, il fait 10 chiffres, et ces 10 chiffres-là sont super importants. Et quand vous tapez ce truc-là, vous êtes identifié par l'administration électorale. préfectorale. Mais bon, ça ne change pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'il y a toujours des papiers à fournir, il y a toujours des situations. De toute façon, j'ai rencontré la semaine dernière une situation terrible. C'est un Sri Lankais qui a été régularisé il y a 10 ans, qui a eu une carte de 10 ans, parce qu'il était marié, il est toujours, avec une Sri Lankaise qui avait le statut de réfugié politique. Okay. Sauf que la vie fait qu'ils se sont séparés il y a quelques années de ça. Ce qui fait que le Sri Lankais en question, eh bien maintenant, va devoir prouver qu'il a bien droit à sa carte de 10 ans, parce qu'il a eu sa carte de 10 ans, finalement, sur une régularisation qui n'est plus bonne maintenant, puisqu'il n'est plus marié avec la femme en question.
Et non.
Même si il est encore marié, puisque le divorce n'a pas été
prononcé.
Okay. N'empêche que, c'est un problème. Alors, des problèmes comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Qui fait que, il y a toute une population qui, aujourd'hui, se pose des questions sur sa présence en France, c'est clair.
Ouais, alors avant, c'était les enfants qui faisaient la paperasse, ou le plus diplômé de la famille, des souvenirs comme ça de soir de paperasse dans la cuisine. mais aujourd'hui, c'est devenu tellement
complexe.
Il
faut déjà avoir un ordinateur chez soi, parce que le coût du smartphone, ça marche pas trop.
Non,
hein.
puis faut comprendre, c'est effectivement incompréhensible de voir que le mec, il a son statut parce qu'il est marié à quelqu'un qui est réfugié Paul, mais du coup, il va plus avoir sa carte de 10 ans parce que c'est quoi sa raison de vivre en France? Évidemment, en 10 ans, il a pas eu le temps de s'installer, hein, bande de crétins. Mais si, justement, maintenant, il a commencé à faire sa vie en France, il a des liens, il a des trucs. C'est complètement dingue, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Certains d'entre nous seront en région parisienne à ce moment-là. On ira voir, on essaiera de mesurer ce qui a pu se passer.
C'est super important. Hein.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi tous les lundis du mois de décembre et même du mois de novembre des assemblées générales à la Bourse du Travail de Paris. 75, donc celle qui est près de la place de la République, l'annexe Eugène Varlin, et que c'est vrai que on sent un petit truc monter, qu'il y a un petit peu plus que d'habitude, et espérons que les gens vont pas se prendre un seau d'eau froide dans la tronche, parce que déjà il fait froid au mois de décembre, mais ça doucherait les initiatives, parce que là je crois qu'on tient vraiment quelque chose, on tient un bon fil. Et ça permet.
On n'est plus dans l'humanitaire,
non,
quoi.
Non. Voilà. Et en plus, ça permet aux étrangers de se sentir acteurs. De leur lutte, d'une part, et de manifester, de relever vraiment la tête, parce que là, on est sur une positivité. On n'est pas sur des gens qui quémandent quelque chose ou qui quémandent le fait de demander à de braves petits blancs de les aider à obtenir leurs papiers, même si on le répète une fois. C'est très bien, mais c'est évidemment super frustrant, c'est évidemment super infantilisant. Or là, ils peuvent être leurs propres acteurs de leur lutte. Et ce qu'il faudrait, c'est pour rajouter et épaissir cet appel, expliquer et réexpliquer qu'il a été possible de gagner des papiers et des droits sur des luttes, mais il faut que ces luttes elles soient évidemment massives, le plus importantes possible. Dure en posant la question du travail et en faisant la grève, et évidemment qu'elle déborde la question de la simple migration, qu'elle pose la question du travail. On en parle souvent ici, mais dans les années 80, il y a eu 3800 sans-papiers turcs, en majorité turcs, qui ont été régularisés à Paris. Pendant la grève dite du sentier. Donc c'était un secteur d'activité de la confection, donc du textile, dans des micro-appartements dans le quartier du sentier, 5e, 6e, 4e et 3e arrondissement. ou dans des appartements, travaillaient majoritairement des Turcs et des Arméniens pour des salariés, des employeurs, pardon, qui étaient le plus souvent arméniens, mais aussi d'autres nationalités. Et il y a eu une vague de grèves qui était liée également à une immigration de type politique, puisqu'il y avait une certaine partie de ces sans-papiers qui étaient des réfugiés qui avaient fui les différents coups d'État, en l'occurrence le coup d'État de 80 en Turquie. Et donc il y a eu une grande, grande grève et il y a eu la régularisation, je vous le répète, de plus de 3000 personnes. Le deuxième étant, c'est la mobilisation dite de Saint-Bernard. Où là, on a des trucs différents, mais on a pu avoir quelques mobilisations ces derniers temps. Hein. On pense notamment aux mobilisations organisées par la CGT de Massy,
ouais.
Palaiseau, qui sont deux communes différentes, pardon pour les gens de Massy, s'ils nous écoutent. Donc Massy et Palaiseau, qui a permis de régulariser quelques centaines de personnes en plusieurs vagues, en plusieurs fois, mais en tous les cas, qui ont permis d'obtenir des papiers. Et aussi, pourquoi c'est important d'être nombreux et d'être massif? Parce que lier la question de la régularisation uniquement par la question du travail, c'est effectivement un soulagement, mais ça peut être un tour de vis. C'est-à-dire que vous allez avoir des contrats de travail ou des cartes de un an, et donc tous les ans, il faudra recommencer. Ouais. Et du coup, vous êtes
Il y a aussi un truc qui est terrible maintenant, c'est que on demande un niveau de français incroyable maintenant pour avoir une carte de 10 ans. Le renouvellement, de toute façon, il ne demande rien à ce niveau-là. Mais si vous voulez vous faire régulariser en France maintenant, si vous êtes étranger, on va vous demander un niveau de français absolument incroyable, du style... Alors, c'est des examens qui portent des lettres. A1, c'est grosso modo comprendre ce qui se passe à un guichet pour que vous puissiez répondre aux questions. Mais ça, c'est dépassé. Hein. Si vous n'avez pas le A1, c'est pas la peine. Le A2, niveau 2, donc, c'était un examen qui était demandé pour la régularisation de ceux qui voulaient avoir une carte de 10 ans. Maintenant, c'est plus vrai. Ça ne marche que pour les gens qui ont une carte d'un an. Pour une carte de 10 ans, c'est maintenant le B1, voire le B2. Le B2, maintenant, c'est pour ceux qui demandent la nationalité française. Et alors, je vous dis pas, le B1 et le B2, c'est un sacré niveau.
Moi, je l'ai pas. Hein.
C'est un sacré niveau en français. Et puis... qu'on demande aux gens, quoi. Alors, bon,
ça et puis, en culture, pour voir s'ils sont bien républicains,
ouais.
Etc. Qui c'est le plus beau, c'est Napoléon, etc., etc. Voilà.
Alors, j'ai eu cette semaine, dans une de mes permanences, quelqu'un qui était de nationalité turque et qui s'est fait blackbouler parce qu'il n'a pas compris... Quand la personne qui était en face de lui, de la préfecture, lui demandait qu'est-ce qui était prioritaire, est-ce que c'était la religion ou est-ce que c'était la République. Alors, il n'a pas compris la question du tout, il n'a pas dit que c'était la religion, hein. Non, loin de là, de toute façon, quand on le regarde un petit peu, il n'a rien à voir avec la religion, quelque religion que ce soit d'ailleurs. Mais il n'a pas compris. Et rien que le fait de ne pas comprendre, il s'est fait blackbouler. On lui a refusé le renouvellement de sa carte. C'était un renouvellement, je crois. Non, ce n'était pas un renouvellement. C'était une carte en direct.
Et en plus, c'est très con comme question, parce que pour n'importe quel croyant, la loi de Dieu est supérieure à toutes les lois. C'est pas la question de savoir si on respecte les lois dans lesquelles on vit, quoi, et les règles dans lesquelles on vit. C'est juste ça. C'est pas une question de conception philosophique. Est-ce que nous, en tant que citoyens français, on se pose la question philosophique de respecter la loi chaque fois qu'on sort dans la rue? C'est n'importe quoi. Enfin bon. Très bien. Bon, on va reprendre notre souffle et s'écouter un peu de musique avant de passer à autre chose. Quoique.
Oui, ben notre camarade est parti, c'est pas très grave. Tu as normalement quelque chose sur la jeune turque Zehra Kürtay qui est en grève de la faim. Elle en est à 163 jours aujourd'hui. Elle est vraiment proche de la mort. Ça se passe en France, hein, ça se passe pas dans un pays étranger. Est-ce que tu as le... Ouais, alors, on va passer le truc.
Mais Zehra Kürtay offre un sourire généreux. C'est pour elle un signe de résistance. Elle vit sous une tente assez haute pour accueillir quelques camarades autour d'une tasse de thé. Quand elle est trop fatiguée, Zehra s'assoit dans un fauteuil roulant.
J'ai la difficulté à marcher, à parler. Je ne peux pas dormir bien. À cause de ça, je suis fatiguée.
Réfugiée en France depuis 2007, l'opposante au régime d'Erdogan était journaliste en Turquie. Elle sera arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises.
Je suis dans le prison à cause de mes idées, à cause de mes écrits.
Considérée comme une terroriste, en 2000, Zehra Kürtay est incarcérée à la prison d'Umraniye avec d'autres prisonniers politiques turcs.
On était côte à côte, on était tous ensemble. On avait le collectivisme, tous mes camarades. C'était super, c'était une école pour moi.
En signe de protestation, Zehra Kürtay et ses camarades entament alors une longue grève de la faim. Libérée au vu de son état de santé dégradé, la militante fuit vers la France et obtient le statut de réfugiée politique. En 2012, elle est condamnée à 5 ans de prison pour son engagement politique passé.
Selon la France, je suis terroriste, je suis dangereuse. J'étais affilorée, mélangiste. J'étais dans la cellule toute seule. La cellule, c'était 9 mètres carrés. J'étais isolée. Il y avait la torture psychologiquement.
En 2021, elle découvre que son statut de réfugié politique lui a été retiré sans notification. Après une garde à vue et un placement en centre de rétention administrative, la journaliste de 53 ans est aujourd'hui visée par une obligation de quitter le territoire français.
J'ai décidé pour protéger mes droits de papier pour obtenir d'asile politique. J'ai commencé la grève de la faim pour obtenir d'asile politique.
Qu'est-ce que vous risquez si vous retournez dans votre pays d'origine, la Turquie ?
La prison, la torture, la menace.
La militante d'extrême gauche poursuit inlassablement sa grève de la faim.
Résister, ça donne l'espoir. Résister, ça donne la force. Je suis très heureuse parce que je résiste. Je veux être symbole de résistance.
Alors, je voulais faire une incise entre groupe Yorum et qui était la chanson qu'on vient d'écouter et vous rappeler au souvenir de Zehra Kürtay dont nous vous parlons depuis maintenant pratiquement 3 semaines, presque 1 mois. Et il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde, ça c'est sûr, mais il y a personne de notre point de vue n'est illégal et Zehra entame lundi son 163e jour de grève de la faim. La situation devient évidemment chaque jour de plus en plus dangereuse. Zehra est arrivée à un point de fatigue qui lui fait presque perdre son sourire et son dynamisme qui frappe tous ceux et toutes celles qui ont l'occasion de la croiser. Et on sent que ça commence à devenir vraiment très 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 difficile. Il y a de plus en plus d'intérêt sur son cas. Il commence à y avoir un agrégat de mobilisation, mais qui malheureusement ne décolle pas encore assez. Il est évident que, étant donné la dureté des rapports entre l'administration et les étrangers, tel que tu viens de nous le décrire, Denis, et la saloperie des politiques aujourd'hui, il faut porter de plus en plus haut et de plus en plus dur les formes de lutte pour obtenir ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Alors ce jeudi, évidemment, sur Paris, ce sera l'occasion aussi de faire la publicité de sa lutte. Comme Zera le dit, elle lutte pas seulement que pour elle, mais aussi pour poser la question des réfugiés politiques en France et d'une manière générale du statut des étrangers. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour lui envoyer un petit mot, consulter ses différents sites, son Instagram, etc. Elle est très attentive, elle est évidemment très touchée et très heureuse qu'on s'intéresse à elle. Et puis si vous êtes en région parisienne, évidemment vous passez à Strasbourg-Saint-Denis, il y a toujours un thé à boire à la Résistante. et puis on va voir si on peut mettre à contribution, essayer d'augmenter, d'essayer de mettre la pression sur la préfecture et sur quelque chose. Et par contre, évidemment, nous, on vous tiendra bien évidemment au courant de son cas, et on suit ça avec solidarité, avec attention, mais avec on le cache pas, de plus en plus d'inquiétude. Alors gardez à l'esprit, hein, que on est sur un mode d'engagement qui est radical, qui est ultime, qui est traditionnel pour les militants révolutionnaires turcs et kurdes. Alors quand je dis traditionnel, ça ne veut pas dire que c'est une tradition d'arrêter de bouffer, mais ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel on met tout son être en jeu, ouais. Que ce soit son être physique, personnel. On a une conception du militantisme, on a un engagement total. Il est de toute façon clair que quand on part dans une voie révolutionnaire dans des pays comme la Turquie, on sait qu'au bout, il y a ou la mort, ou la prison, ou la répression, ou la victoire, ou la fuite. Et donc, ce sont des modalités d'engagement qui sont, comment dire, acceptées et intégrées à l'intérieur de la culture politique turque. Il est vrai que nous, par rapport à notre individualisme petit bourgeois et nos hédonismes particuliers, on peut avoir une certaine stupéfaction de voir ça. De toute façon, comme Zera le dit très bien, et avec une certaine, comment dire, lucidité, qu'elle meure ici ou qu'elle meure en Turquie, elle meurt quand même. Donc, c'est bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Alors évidemment, vous irez tout un tas de trucs sur Zera Courtais et ses camarades. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'égogore. On va pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long à expliquer. Il faudrait faire une longue émission sur la gauche révolutionnaire turque qui, pourquoi pas, un jour sera faite, hein, parce que c'est à la fois passionnant mais très bordélique. Et puis surtout expliquer pourquoi cette culture d'extrême gauche, elle est encore très vivace, puisque faut se rappeler qu'au début du 20e siècle, pardon, juste avant la Première Guerre mondiale, la Turquie est encore gouvernée par un sultanat. Hein, donc c'est même pas la Turquie, c'est la République ottomane. Donc c'est quelque chose qui est très neuf, qui est très nouveau, donc avec des phénomènes qui sont différents par rapport aux autres pays européens, même si il peut y avoir une certaine résonance par la proximité sociologique, la proximité historique et la proximité culturelle avec certaines parties de l'Europe. Voilà, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Denis, tu as quelque chose à dire là-dessus ?
Non, j'ai rien à dire, si ce n'est qu'effectivement les marxistes-léninistes turcs sont particuliers, ça n'a rien à voir avec des petits bourgeois tels qu'on a pu les vivre en France. C'est vraiment des gens qui mènent la lutte jusqu'au bout, qui s'implique complètement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qui ne recule devant rien et surtout ne recule pas devant la souffrance, quoi, leur propre souffrance. Moi, je trouve ça complètement invivable. C'est-à-dire que 163 jours sans bouffer, en buvant simplement du thé matin, midi, sucré, soir, ouais, de sucré, c'est terrible, quoi. C'est vraiment, on se fait mal, elle se fait mal, hein, pour pouvoir gagner quelque chose. C'est-à-dire que.
Alors, elle porte en elle et à travers son corps, justement, cette espèce de témoignage. C'est même le mot qu'on emploie, puisque en arabe, le témoin, c'est Shahid, c'est comme le Messie, c'est comme le martyr, Meshia, etc. Donc, se martyriser, c'est témoigner aussi physiquement dans la transformation de son corps, de son visage, de son état physique, la lutte, se faire incarner au sens étymologique du terme, dans son corps, la lutte. Alors, c'est vrai que ça peut sembler étrange pour une émission qui se revendique anarchiste communiste, comme tu l'as dit, de défendre des marxistes-léninistes qui sont sur cet état-là. Alors, il faut rajouter aussi quelque chose. À l'intérieur de la Turquie, il y a aussi des traditions culturelles ou politico-culturelles comme les Alevis, comme les Yézidis, etc., qui sont des courants extrêmement philosophico-spirituel de l'islam, qui peuvent aussi entretenir, là, par exemple, des choses qui sont proches du soufisme. Mais comme me l'expliquait un de ses camarades il y a quelques semaines, déjà, je suis en train de réfléchir, mais ça fait déjà quelques semaines, ouais, il faut comprendre que, par exemple, lors du 1er mai, en Turquie, il y a des morts. Il y a des gens qui se font tirer dessus par la police. Sortir pour revendiquer ses droits, c'est risquer de mourir, c'est risquer de se faire exécuter ou disparaître dans un commissariat. Zera l'expliquait, à l'époque où elle a commencé à militer, il y avait des centres d'expérimentation sur lesquels on mettait les prisonniers et on leur faisait subir tout un tas de tests médicamenteux, physiologiques, etc. On disparaissait, quoi, littéralement. Le rapport à l'engagement, il peut être que total. À partir du moment où tu fais le choix de t'engager, tu sais que tu risques ta vie. Donc évidemment, la valeur de la vie, elle n'est pas non moindre, mais chaque militant sait qu'il est possible de pouvoir risquer sa peau. Il y a encore évidemment un océan entre la capacité d'avoir des droits, ne serait-ce démocratique, des droits formels, comme on dirait en critique politique, et des droits réels, donc savoir là. Mais voilà, à côté de ça, on a évidemment un pouvoir. Comment te dire, le tribunal administratif de Melun et la préfecture du Val-de-Marne aura des comptes à rendre sur le traitement de Zera et de ses camarades, quoi, parce que là on est en train d'arriver à quelque chose comme ça sera une conclusion, quoi. Ça va se jouer à mon avis d'ici quelques semaines, quoi, où la direction de l'avenir de Zera va être prise. Et puis tu l'as dit aussi, hein, la grève de la faim, c'est ce qu'on utilise quand on peut plus rien utiliser, hein.
Oui, tout à fait.
Qu'elle expliquait, c'est qu'à titre individuel, elle peut pas faire grand chose. C'est vrai que s'il y avait 300 grévistes de la faim, réfugiés politiques pour l'obtention de leur statut, la visibilité, elle serait plus grande et ça irait plus vite. Là, on est sur quelqu'un qui est sur une situation individuelle et très difficile. Bon, on développe pas, pour ceux qui rejoindraient l'émission en cours ou qui n'auraient pas écouté les précédentes, je vous invite à lire Courant alternatif du mois de 1 décembre. Où il y a un petit résumé de la situation de Zera, et puis on resitue.
C'est facile à trouver puisque c'est dans la dernière page.
La quatrième de couve.
C'est la page 36.
Et puis, on vous invite aussi à réécouter l'émission d'il y a 15 jours, hein, du 1er décembre, où on détaille un peu plus l'affaire, et Zera un petit peu plus longtemps la parole pour s'exprimer. Et puis d'ailleurs, on va vous inviter pour ceux qui le pourraient ou qui le voudraient à vous abonner à Courant Alternatif, le journal qui reprend parfois quelques thématiques dont on vous parle dans cette émission. Un journal qui essaye d'apporter à la fois un point de vue anarchiste communiste et un point de vue différent sur l'actualité, qui essaye de parler de choses dont on ne parle pas ailleurs, notamment la situation internationale. Et puis qui parfois affirme certes des positions anarchistes communistes, mais se veut d'abord un porte-parole des luttes qu'on a l'occasion de croiser en France ou ailleurs. Évidemment, si vous connaissez pas le journal, ce qui est un scandale, vous pouvez écrire, alors non pas à Denis, mais à la boîte postale dont l'adresse est Denis, s'il te plaît.
Donc vous écrivez à Les Grégor, boîte postale 80-213 51-058 Reims-Cedex.
Voilà, et on vous fera le grand plaisir de vous envoyer un numéro
gratuit, ou deux ou trois, si vous voulez.
Voilà, si vous êtes intéressé, pensez pas que si vraiment c'est l'argent qui est un problème, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un journal qui est fait pour rémunérer des actionnaires, c'est un journal qui est fait pour porter une parole. Donc, si vous avez envie, alors par contre, il faut prendre un timbre, hein, et il faut prendre une enveloppe, un peu comme le temps de la préhistoire, et écrire à l'adresse qui vous est donnée, ou alors miraculeusement envoyer un email sur l'adresse email de l'OCL, qui est le oclibertaire@lautre.net.
Ça doit être...
Ah, raté.
OC Libertaire, riseup.net.
Voilà, c'est ça. Et vous formulez votre demande, ben vous n'oubliez pas d'envoyer votre adresse, d'indiquer votre adresse, et ça sera le même processus. Pour les émissions de radio, c'est pareil. Elles sont toutes disponibles, téléchargeables, rediffusables en entier, avec ou sans mention de l'origine, même pas contrôlée, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à les faire circuler et à nous faire des retours s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous souhaiteriez qu'on traite, ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ça changera pas notre point de vue, mais on sera ravis de vous répondre. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, on verra ça. Toutes les émissions sont disponibles sur le site de l'OCL, sur le site de Radio Primitive et sur le blog Le Chat Noir 51. Nous, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec ou sans bonnet rouge, on verra bien. Et puis, on vous racontera un petit peu si cette journée du 18, donc journée internationale de solidarité avec les migrants et les migrantes, a été un succès et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Voilà.
Ouais, simplement une remarque pour les émissions de radio. Il y a un an d'archivé. Si vous voulez une émission qui date de plus d'un an, il faut nous écrire et on vous l'enverra. Voilà.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de... Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.